Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Romuald Ciora, qui est un Français qui vit à New York, qui travaille depuis déjà de nombreuses années sur l'ONU et qui vient de publier avec Anne-Cécile Robert aux éditions Erol, qui veut la mort de l'ONU. Alors, avec un point d'interrogation quand même, est-ce que la situation est si grave que ça? On entend bien effectivement les attaques des États-Unis sur les Nations Unies, mais pas seulement des États-Unis. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un danger de vie ou de mort pour les Nations Unies?
Oui, il y a un sérieux danger de vie ou de mort pour les Nations Unies et le multilatéralisme en général. Les Nations Unies étant l'outil principal du système multilatéral, l'organisation est évidemment la première visée. Donc oui, il y a un danger de mort. L'ONU disparaît progressivement depuis déjà un bon moment de la scène politique internationale. Et cela ne va que s'accentuer malheureusement dans les prochaines années.
Est-ce que cette inquiétude n'est pas excessive? Parce que finalement, il y a un secrétaire général, il y a les institutions, des réunions annuelles, des réunions régulières. Est-ce que vous pensez vraiment que tout d'un coup, on pourrait dire, eh bien ça y est, l'ONU, on ferme la porte, on rase l'immeuble, ou en tout cas on le vend, et l'organisation cesse de vivre?
Non, je ne pense pas être excessif quand on voit le comportement de Donald Trump avec les institutions multilatérales ou les traités qui ont pu être signés et dont il se retire. Quand on voit la baisse déjà des aides financières des États-Unis au maintien de la paix. Non, non. Je pense sincèrement que l'ONU est sur la pente qui va la voir disparaître, comme je le disais, de la scène politique internationale. On va pas mettre les clés sous la porte. Les Nations Unies existent depuis maintenant près de 80 ans, 70 ans. Je pense que les Nations Unies seront toujours là dans 20 ans, mais l'organisation va progressivement se transformer en une super agence humanitaire réalisant un travail extraordinaire en ce qui concerne le développement, les droits de l'enfance, les droits de l'homme, l'UNESCO, etc. Mais l'ONU politique telle que l'organisation a pu être rêvée et pensée après la Seconde Guerre mondiale va progressivement disparaître et n'est déjà plus qu'un simple figurant sur la scène politique internationale. Vous parlez de réunions, de sommets, etc. Les réunions et les sommets internationaux à l'ONU sont plus quelque chose de... les grandes décisions sont prises aujourd'hui dans des ensembles un peu plus, soit régionaux, soit des groupes comme le G20 ou le G8.
Mais l'ONU, telle que vous en parlez, telle qu'elle a été rêvée par les rédacteurs de la charte, est-ce qu'elle n'a jamais existé? L'ONU n'a jamais joué ce rôle de gardien de la sécurité collective. Elle n'a jamais été le gendarme du monde, néanmoins elle était utile. Donc est-ce que vous ne faites pas une comparaison entre ce que l'ONU pourrait être idéalement et ce qu'elle est réellement et qu'elle n'a jamais été ce qu'on a rêvé? Donc est-ce qu'il y a vraiment une dégradation? Je veux dire par là, pour être plus clair, est-ce qu'il y a vraiment une dégradation du rôle et de la situation de l'ONU par rapport aux 70 dernières années?
L'ONU n'a jamais été véritablement ce que l'on pouvait espérer après la Seconde Guerre mondiale, mais l'idée était vivante. C'est comme si nous parlions des droits de l'homme à travers le monde. L'idée est toujours vivante en ce qui concerne les droits de l'homme. Par contre, l'idée onusienne n'est plus présente et complètement inexistante. Donc l'ONU n'a jamais été peut-être aussi efficace que l'on aurait pu l'espérer, mais quand même, l'ONU a quand même joué un rôle important durant la guerre froide. L'ONU a joué un rôle très important après la chute de l'Union soviétique, un moment où on aurait pu espérer qu'en fin de compte, elle devienne ce grand parlement de l'humanité pour lequel elle avait été créée. Aujourd'hui, même l'idée de l'ONU, l'idée de base de l'ONU a disparu.
Est-ce que le grand tournant n'a pas été à ce moment clé de la disparition de l'Union soviétique parce que en 1991, Gorbatchev accepte de sanctionner l'Irak qui était l'allié de l'Union soviétique et pour la première fois, le chapitre 7 fonctionne tel qu'on l'a prévu. Pour la première fois, il y a une action de sécurité collective pour punir un pays qui a violé le droit international en annexant le Koweït. Et puis ensuite, plus rien. Est-ce que c'est pas là, finalement, au moment où Gorbatchev lâche son allié pour ne plus faire comme avant, le droit de veto protégeant l'allié de chaque superpuissance, est-ce que c'est pas là que se sont jouées les choses et que l'ONU, du fait du refus américain de continuer à travailler avec Gorbatchev, de lâchage de Gorbatchev, est-ce que c'est pas là que tout s'est joué?
Oui, tout à fait. En 1992, nous avons vraiment pu espérer que l'ONU, comme je le disais, remplisse sa fonction, la fonction pour laquelle elle avait été créée. Nous avons eu le premier conseil de sécurité au niveau des chefs d'État, ce qui était quelque chose de très important, un nouveau secrétaire général qui allait publier ses trois agendas pour la paix, pour le développement et
Boutros-Ghali,
et un président américain qui avait été ambassadeur auprès des Nations Unies dans les années 70, George Bush père. George Bush père était un homme qui avait une véritable vision multilatérale du monde, qui avait pris conscience avec l'aide de son conseiller à la sécurité nationale, Brent Scowcroft, des enjeux et du nouvel ordre mondial qui se dessinait après la chute de l'Union soviétique. Et même si on amorçait l'époque de la superpuissance future, hyperpuissance américaine, tous deux avaient bien compris que cette période ne serait que transitoire et que si les États-Unis voulaient continuer à tirer les ficelles de l'ordre international, il fallait pour cela que les USS se servent justement de l'outil multilatéral qu'était l'ONU. Donc il y a eu tout ce moment très positif pour l'ONU en 92, l'arrivée de Boutros-Ghali, qui était un véritable visionnaire, George Bush, Scowcroft. Malheureusement, pour ce qui est de l'ONU, George Bush a perdu les élections, Bill Clinton a été élu et d'une manière un peu ironique, c'est une administration démocrate qui a sans doute desservi pour longtemps les intérêts des Nations Unies.
En faisant quoi? Par quels moyens? Par quelle volonté? Par quelle action l'administration Clinton s'est attaquée alors qu'il a la réputation pour beaucoup d'avoir été plus multilatéraliste que d'autres? En quoi l'action de l'administration Clinton a été néfaste à l'ONU?
Il n'y a pas eu de volonté de l'administration Clinton de nuire aux Nations Unies. Clinton avait une certaine vision du monde qui correspondait à ce que l'on peut espérer d'un démocrate. Simplement, je pense qu'à l'époque, il n'avait pas l'expérience nécessaire et il n'avait surtout pas une vision qu'il a eue par la suite. Bill Clinton est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais il n'avait pas une vision des grands enjeux internationaux. Je pense qu'il n'avait pas véritablement compris l'importance que le système multilatéral pouvait représenter pour le futur des États-Unis, et il a été très très vite absorbé aussi par des problèmes domestiques. Il avait comme secrétaire d'État Warren Christopher, si je ne me trompe, et comme ambassadrice auprès des Nations Unies, Madeleine Albright. De la part d'Albright, il n'y avait pas non plus une volonté du tout, bien au contraire, de nuire aux Nations Unies. C'est que plutôt, ils se sont très vite comportés un petit peu comme les dirigeants de la seule superpuissance restant dans l'ordre international. Ils se sont confrontés à Boutros-Ghali, qui n'a pas toujours été un secrétaire général facile non plus pour l'administration américaine. Et les États-Unis, progressivement, se sont un petit peu détournés de l'ONU pour tout ce qui a été l'ex-Yougoslavie, etc., etc. Donc il n'y a pas une volonté de se détourner de l'ONU. Il y a plutôt un manque, je pense, de perception de l'ordre international qui se mettait en place durant le premier mandat de Bill Clinton, ce qui a conduit à toutes ces frictions avec les Nations Unies. Et en 96, Boutros-Ghali a voulu se représenter pour un second mandat. Madeleine Albright s'y est farouchement opposée, ce qui a conduit à l'élection de Kofi Annan. Là, les relations ont été un petit peu différentes. Mais pour les raisons que nous venons d'évoquer, oui, la grande opportunité de placer l'ONU au centre de la scène internationale comme un véritable, entre guillemets, parlement de l'humanité a été manqué durant le premier mandat de Bill Clinton.
Mais en niant un peu le rôle que l'ONU peut jouer, est-ce que vous ne méconnaissez pas en fait le rôle quotidien, toute la prévention, tous les contacts que cela permet? Est-ce que finalement dans votre critique, une sorte de déception amoureuse de ce que l'ONU pourrait être, vous n'allez pas rejoindre ceux qui s'opposent à l'ONU par principe, par volonté, qu'il n'y ait pas un organisme mondial ou supranational? Donc est-ce que, malgré tous ses défauts, on ne peut pas dire de l'ONU, à l'instar de ce que Churchill disait sur la démocratie, que c'est le pire des systèmes à l'instar de tous les autres. Est-ce que néanmoins l'ONU n'est pas utile et indispensable?
L'ONU est évidemment utile et indispensable. L'ONU continue à jouer un rôle capital en ce qui concerne le développement, la lutte pour les droits de l'homme, pour les enfants, pour les femmes. Dans de très nombreux pays, comme vous le savez, l'ONU est quasiment le seul espoir pour les populations. Non, l'ONU est très utile. J'entends que l'ONU, grand forum politique seule représentation supranationale un tant soit peu démocratique n'existe plus, a été surplantée par les ensembles, par les organisations régionales ou par des organisations non démocratiques telles que le G8, G7, G20. Mais oui, l'ONU est utile, l'ONU est indispensable, l'ONU disparaît progressivement de la scène politique internationale, mais nous devons continuer à la soutenir, continuer à essayer d'apporter les réformes nécessaires, et sans doute un jour elle pourra, si ce n'est trouver la place que l'on aurait souhaité pour elle, se réformer et répondre aux attentes qui seront les nôtres d'ici 20-30 ans.
Mais les réformes sont notamment celles du Conseil de sécurité, de son élargissement possible, qui est réclamé depuis longtemps et en même temps qui est bloqué par les actuels membres du Conseil de sécurité. Donc est-ce que l'on n'est pas dans une impasse dans la mesure où ni la Chine ni les États-Unis ne veulent ouvertement l'élargissement du Conseil et que la Russie ne se précipite pas pour y aider ?
Oui, on est dans une impasse. Les choses ne vont pas évoluer. La réforme du Conseil de sécurité est un vieux serpent de mer. Chaque fois qu'un secrétaire général est élu depuis 20-30 ans, il est là pour aider à la réforme du Conseil de sécurité. Tous les chefs d'État entrant en fonction disent « Ah, on va pousser, ça n'arrivera jamais ». Cela se passera le jour où l'ONU sera intégralement reformée ou qu'elle laissera la place à une troisième génération d'organisations internationales après la Ligue des Nations, les Nations Unies, une troisième génération qui là sera peut-être plus représentative de l'ordre international.
La semaine dernière, il y a eu le Forum de Paris sur la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu s'exprimer. Et il a peut-être finalement préempté vos critiques en mettant en avant toutes les réussites de l'ONU, notamment l'éradication de certaines maladies, la variole, le fait que l'extrême pauvreté est reculée de façon très considérable. Alors est-ce qu'il n'y a pas tout ce travail moins visible, non pas de l'ONU, alors bien sûr il y a l'ONU, le Conseil de sécurité qui prend les grandes décisions sur la paix, mais est-ce que ce travail des institutions spécialisées, des organismes subsidiaires de l'ONU, de l'OMS, OHR, n'est pas finalement méconnu, et alors qu'il fluidifie de façon extrêmement forte la vie internationale.
Tout à fait, c'est ce que nous développons d'ailleurs dans plusieurs chapitres du livre avec Anne-Cécile Robert, bien sûr. Mais il faut savoir de quelle ONU on souhaite parler. Si on parle de l'ONU humanitaire, de l'ONU, de l'OMS ou de l'UNESCO, ce qui est l'Organisation des Nations Unies pour la Culture, l'ONU continue à remplir un rôle unique et extraordinaire. Si on parle de l'ONU politique, et c'est de celle-ci dont nous parlons, celle-ci a disparu progressivement de la scène internationale au détriment des G20 et G8. Mais oui, l'ONU comme agence culturelle, humanitaire, de protection de différents droits, est toujours vivante et remplit un rôle extraordinaire à travers le monde.
Comment jugez-vous l'action du nouveau secrétaire général ? On avait beaucoup d'espoir, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que le précédent avait été un peu coincé quand même. Et est-ce que, bien sûr, il n'est pas facile d'être secrétaire général des Nations Unies lorsque l'on a Donald Trump comme président des États-Unis en face. Comment jugez-vous l'action d'Antonio Guterres depuis qu'il a été élu, donc depuis une dizaine de mois ?
Guterres pensait être le secrétaire général de l'ère Clinton, Hillary Clinton. Il se retrouve, comme vous le dites, le secrétaire général de l'ère Donald Trump, ce qui est très différent. Néanmoins, je crois qu'il y a beaucoup de déceptions autour d'Antonio Guterres. La plus importante est qu'il cataloguait son prédécesseur d'homme invisible. Antonio Guterres est très peu présent et je pense qu'il a loupé l'opportunité d'être une voix, non pas une voix contre Trump, mais la voix des peuples qui auraient pu s'exprimer en opposition à la plupart des actions belliqueuses du président des États-Unis. Un petit peu comme le président Macron pendant pas mal de temps, on a l'impression que Antonio Guterres a peur des États-Unis. On peut le comprendre d'un certain côté, vu que les États-Unis ont déjà quitté l'UNESCO, l'Iran Deal, une baisse significative sur le budget du maintien de la paix. On n'est pas à l'abri de voir les États-Unis se retirer progressivement d'une manière
Pas comme de l'UNESCO quand même.
Non, je ne pense pas, mais avec Donald Trump, vous savez, Donald Trump aujourd'hui ne va pendant les deux prochaines années ne plus pouvoir faire grand-chose au niveau intérieur. Donc s'il veut continuer à flatter son électorat, c'est sur la scène internationale qu'il va s'exciter. La prochaine cible facile l'Organisation des Nations Unies, c'est évident. Donc, je ne pense pas que les États-Unis quitteront l'ONU, mais je pense qu'ils vont annoncer, peut-être même au cours de cette année, une baisse très importante de leur contribution au budget de l'ONU. Donc, on peut comprendre qu'Antonio Guterres ne souhaite pas heurter trop violemment le président des États-Unis. Mais, même si l'on comprend cela, on aurait pu espérer qu'il soit un peu plus présent et qu'il soit un peu plus réactif à certaines décisions américaines. Donc Antonio Guterres déçoit, l'homme est de grande qualité, mais il déçoit par son manque de réaction et de présence sur la scène internationale.
Vous suivez ces affaires-là depuis très longtemps. Comment vous jugez l'action du Conseil de sécurité, ou plutôt, est-ce que la France se sert du Conseil de sécurité comme un multiplicateur de puissance? Est-ce que, dans la configuration actuelle du Conseil de sécurité, la France joue un jeu particulier, et est-ce qu'elle arrive à peser un peu plus que son poids réel dans les instances de l'ONU? Donc bref, est-ce que la façon dont la France veut défendre l'ONU et le multilatéralisme est également dans l'intérêt national français?
Bien évidemment, le siège permanent de la France au Conseil de sécurité est sans doute notre dernier levier de puissance au niveau international. Oui, tout à fait.
Et concrètement, comment se passe Nikki Haley va quitter l'ambassadrice américaine. Est-ce que il y avait une bonne relation de travail malgré tout avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité?
Nikki Haley est probablement la seule personne aujourd'hui dans l'administration Donald Trump un tant soit peu raisonnable et capable de dialoguer avec les alliés d'une manière constructive. Il va y avoir, je pense, un nouvel ambassadeur qui sera beaucoup plus représentatif de la nouvelle, enfin de la nouvelle administration, de tous ces changements qui auront lieu au sein de l'administration Trump. Ce dernier a aujourd'hui, pour la première fois en 2 ans, une équipe solide qui partage ses vues. Mike Pompeo comme secrétaire d'État et John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. John Bolton
qui a été ambassadeur à l'ONU et qui n'a pas un grand amour pour l'organisation onusienne.
Qui a été ambassadeur sans l'être officiellement. Il avait été nommé par le président, mais comme vous le savez, l'ambassadeur auprès des Nations Unies fait partie du cabinet du président des États-Unis, donc doit être approuvé par le Sénat. Et Bolton n'a jamais pu être approuvé par le Sénat. Donc il est resté en place pendant 2 ans à peu près, sans être officiellement reconnu comme ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies par le Sénat américain. John Bolton n'a jamais caché sa haine, on peut le dire, hein, sa haine du système multilatéral et de l'organisation, et de la haine qu'il éprouve pour l'Organisation des Nations Unies. Donc aujourd'hui, John Bolton a toutes les manettes en main. C'est surtout lui qui est en charge du dossier ONU et Organisation Internationale. Mike Pompeo est plutôt sur les relations bilatérales. Donc on peut imaginer que le nouvel ambassadeur ou la nouvelle ambassadrice auprès de l'ONU sera quelqu'un très proche des idées de John Bolton. Donc les relations entre les représentants permanents auprès du Conseil de sécurité risquent d'être assez tendues dans les mois et les 2 années qui à venir.
Vous vivez à New York depuis une quinzaine d'années, mais vous allez souvent à l'intérieur des États-Unis. Alors, est-ce que pour beaucoup d'Américains, il y a ce mythe de l'ONU qui serait le gouvernement mondial qui s'attaque à l'intérêt national américain et que donc cette méfiance, est-ce que quand vous sortez de New York, bien sûr à New York ça va être différent, mais quand vous sortez de New York, est-ce que vous sentez cette hostilité de l'Amérique profonde face au système onusien?
On l'a senti pendant de nombreuses années d'une manière très claire et très évidente. Aujourd'hui, je dirais malheureusement, on ne la sent plus puisque plus personne ne s'intéresse ou ne pense aux Nations Unies, aux États-Unis.
Est-ce que les Chinois, comme on le dit, prennent une importance de plus en plus grande en investissant les différents postes? Est-ce que la Chine devient le pays qui monte dans l'institution onusienne?
Tout à fait. Mais d'une manière assez discrète. Comme toujours, la diplomatie chinoise est assez discrète. Donc il y a de plus en plus de représentants du gouvernement chinois dans les grandes instances onusiennes, mais pas spécialement dans les postes les plus élevés. Il n'y a pas de nombreux secrétaires généraux adjoints qui soient chinois. Il y a pas. C'est plutôt dans les postes subalternes, conseillers ou dans les différents départements. Mais oui, définitivement, l'influence chinoise est de plus en plus forte au sein des Nations Unies. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Ce n'est pas si négatif. La France, de plus en plus, collabore avec Pékin au Conseil de sécurité. La place de leader est laissée vacante par les États-Unis. Donc oui, tout à fait.
Mais est-ce que du coup, si la Chine occupe une place de plus en plus importante, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à ce que l'ONU soit plus vivante elle-même et plus importante si la Chine s'y investit? Bref, est-ce que le désamour américain peut être compensé par un regain d'intérêt d'autres membres permanents?
Oui et non. La Chine a tout à fait conscience que l'ONU dans le jeu multilatéral est un outil indispensable pour elle, un petit peu comme l'administration américaine à l'époque de George Bush père. La différence, c'est que la Chine n'est pas amoureuse de ce que représente l'ordre multilatéral. La Chine cherche plutôt à servir ses intérêts. Donc ses intérêts passent par une plus grande présence au sein du système des Nations Unies, mais cette présence, je ne pense pas que cette présence aidera à développer le système multilatéral au sens où nous l'entendons et l'espérons.
Il y a beaucoup de reproches qui sont faits au système onusien par rapport aux droits de l'homme que vous évoquiez en début d'entretien. Est-ce que finalement une organisation internationale composée d'États peut sérieusement s'occuper des droits de l'homme, ou est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque de blocage? Le fait que l'Arabie Saoudite préside actuellement le Conseil des droits de l'homme prête quand même un petit peu à une certaine confusion.
Oui, mais je crois que dès que l'on parle d'une organisation supranationale, nous devons comprendre que toutes les nations ou tous les États de la planète ne partagent pas les mêmes valeurs. Donc il est très important, évidemment, d'aider à développer les droits de l'homme à travers les différents pays membres des Nations Unies. Mais je pense que nous devons respecter la vision que d'autres États peuvent avoir des droits de l'homme, essayer de les amener à améliorer les droits de l'homme au sein de leur pays, mais je pense qu'il serait stérile d'heurter de front certains pays. Les choses se font progressivement, et sinon on serait un peu dans une forme de néocolonialisme intellectuel.
Oui, mais de là quand même à donner la présidence d'un comité des droits de l'homme à l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il n'y a pas une marge de manœuvre quand même? Est-ce qu'il n'y a pas pour le moins une ironie dans cette affaire?
Il y a une ironie, mais d'un certain côté, à un moment, c'était Kadhafi qui avait la présence de la Assemblée générale, qui avait une forte présence au Conseil des droits de l'homme. Bien sûr que c'est ironique, mais est-ce qu'il vaut mieux les tenir complètement à part, ou est-ce que ne pensez-vous pas que en leur offrant peut-être cette position, cela permet d'aider un petit peu au progrès des droits de l'homme en Arabie Saoudite? Cela a aidé pour les femmes, pour certaines communautés gays, etc. Donc je ne pense pas. On ne doit pas espérer, on ne peut pas attendre de chaque État une réaction semblable à celle que nous pouvons avoir dans nos pays occidentaux. Donc, au contraire de certaines personnes, je pense que ça peut être ironique, mais je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose d'ouvrir et d'offrir parfois des positions importantes à des pays comme l'Arabie Saoudite au sein du Conseil des droits de l'homme.
Pour conclure cet entretien, l'ONU, selon vous, n'assure pas son rôle de gardien de l'ordre dans le monde, mais alors qui le joue si ce rôle est joué?
Quand on dit l'ONU n'assume pas son rôle, n'oublions pas que l'ONU n'est que ce que les États membres veulent bien en faire. Donc ce sont les États qui n'aident pas l'organisation supranationale à assumer ce rôle. Qui l'assume, malheureusement, cela se fait de plus en plus à travers des groupes comme le G7 ou le G20, ou à travers des relations bilatérales. Malheureusement, aujourd'hui, l'ONU n'étant plus qu'un figurant sur la scène internationale, je crois que personne d'autre, véritablement, ne remplit cette fonction.
Merci Romuald Sciorra. Je revois la lecture de votre livre, coécrit avec Anne-Cécile Robert, « Qui veut la mort de l'ONU ?» Ça vient de paraître aux éditions Erol avec un sous-titre dramatique, « Du Rwanda à la Syrie, histoire d'un sabotage ».